divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Marc-André, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie, chercheur au sein du groupe de recherche d'histoire. Vos travaux portent sur l'immigration algérienne, la guerre d'Algérie, la justice militaire et la prison. Et si je vous ai invité ce matin à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que vous venez de diriger ou de coordonner un très intéressant numéro de Raison présente intitulé « Casse, casseur, cassure ». Ce titre est non seulement euphonique, mais il dit d'emblée quelque chose de votre angle d'attaque. Redonner au geste casseur une histoire qui ne soit pas seulement celle écrite par les historiens conservateurs qui dénigrent ou méprisent les mouvements populaires, et redonner au geste casseur, comme le dit la revue à laquelle vous collaborez depuis quelques années, leur raison présente.
Exactement. Et je dirais tout de suite qu'il n'y a pas que les historiens conservateurs qui dénigrent ou méprisent les mouvements populaires, les gestes de casse. D'ailleurs, peut-être qu'il y a de moins en moins d'historiens qui seraient dans cette tendance. On partage de plus en plus des méthodes et on arrive à se mettre d'accord généralement. Par contre, effectivement, dans le passé, des historiens, des hommes, au départ, ont pu dénigrer ces gestes, et ce, à différentes époques historiques. Cela passait par différentes techniques ou différentes approches. La première, les premiers historiens, on pourrait les qualifier d'indifférents. On a toute une série de manuels, de livres d'histoire sur l'industrialisation, sur la montée de la globalisation, qui en fait ne disent pas un mot des troubles sociaux qui accompagnent l'essor du capitalisme, qui est toujours vu comme un progrès, donc une absence manifeste. Il y a aussi les méprisants qui dénigrent, effectivement, dans la même période, des années 50-70, on a ce type d'expression, réflexe primitif, esprit échauffé, qui, de fait, n'accorde pas une véritable attention à ces gestes. En fait, il y a eu quelques historiens pionniers qui ont prêté une oreille attentive à ces gestes casseurs. Je pense à Eric Hobsbawm, à Edward Thompson, deux historiens anglais, qui ont essayé de sortir de cette vision de gestes comme des spasmes. Ils ont décidé de ne plus considérer ces gestes comme des spasmes. Et ça avait deux conséquences. La première conséquence intellectuelle, c'est qu'on n'écoute plus et on ne s'intéresse plus qu'à des récits écrits par des vainqueurs. Et la deuxième conséquence, c'est qu'on écoute le message qui peut être derrière le geste casseur. Maintenant, le problème, c'est que depuis des années, en fait, on a une diversification et un élargissement d'une parole qui dénigre systématiquement les gestes casseurs d'hier et d'aujourd'hui, des journalistes notamment, et d'autres acteurs du monde social. Alors l'idée de départ de ce numéro, il est né fin 2018, à un moment où je regardais une émission en fait, de télé où le concept c'est de parler en mangeant, et il commentait les gilets jaunes et des poubelles brûlées en parlant d'un coup d'une hyper-violence. Et moi, ce que je trouvais, c'était que cette image-là était violente. Pas la poubelle en feu, mais l'image de gens qui mangeaient et qui dénigraient complètement ce qui était en train de se passer, qui ne prêtait pas l'oreille. Alors, comme je ne suis pas spécialiste de la casse ou des mouvements sociaux, des historiens, des anthropologues, des sociologues sont bien plus spécialistes que moi, j'ai essayé de proposer, avec Raison présente, un numéro collectif qui avait quelques principes. Le premier principe, c'était de redonner à ces gestes casseurs une durée, c'est-à-dire de prendre au moins 2 siècles, on verra sans doute pourquoi après, 2 siècles de gestes casseurs, et puis de pouvoir comparer. La comparaison permet en général de voir des points communs, des différences, et puis surtout de mettre une distance critique nécessaire. Le deuxième principe, c'était de faire un collectif, alors un collectif qui tient le temps d'une revue et qui permet des regards de différents horizons. On a dans cette revue des historiens, beaucoup, parce que c'est mon champ, mais aussi un anthropologue, un psychologue, un sociologue, une physicienne qui donne un regard décalé aussi, un philosophe. Donc c'était un panel qui permettait vraiment de multiplier les approches pour saisir ces gestes. Alors bien sûr, ce collectif réuni dans la revue, en fait, ce sont des chercheurs qui sont sensibles à l'histoire populaire, vous avez mentionné cette expression, qui remonte en fait à un historien américain, Howard Zinn, mais qui, en France, a des fervents, alors je dirais pas admirateurs, parce qu'ils ont eux-mêmes fait des livres fondamentaux. Je pense à Michel Zancarini-Fournel, je pense à Gérard Noiriel, qui est aussi dans le numéro. Donc, on a une approche un petit peu par le bas de ces gestes.
Un des axes qui me semble très éclairant dans ce numéro consiste à montrer comment différents mots, les termes de casseurs aujourd'hui ou de black blocs, comme celui de vandale sous la Révolution, comme celui de ludiste à la fin du XVIIIe siècle, servent ou ont servi à délégitimer ces mouvements et à les désigner comme une menace sociale.
Alors, vous citez plusieurs mots et on peut avoir au moins deux approches à partir des mots que vous citez. Il y a des mots qui s'ancrent dans un contexte précis. Je pense au terme de ludiste. C'est un mot particulier. C'est un mot qui a été repris par les historiens que je citais tout à l'heure, comme Hobsbawm et Thompson, ou en France, par François Jarige, qui consacre un article sur ces briseurs de machines, puisque ludiste, en fait, c'est un terme qui s'ancre dans un contexte bien particulier, le début du 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle, qui fait référence à un personnage un petit peu mystérieux, Ned Ludd, qui aurait cassé son métier. Donc, c'est un mot qui a une résonance dans un contexte particulier.
Une antonomase, on dit, pour donner son nom à un mouvement.
Exactement. Et donc, ça vaut aussi sans doute pour les Black Blocs. Les Black Blocs, Ludivine Bantini, dans ce numéro, rappelle, après et avec de très nombreux autres chercheurs, l'origine ouest-allemande du terme dans les années 80, une origine dans la mouvance autonome, et après on peut la faire remonter aussi en Italie, un mouvement qui a pris corps et qui s'est dessiné toujours plus dans l'altermondialisme, une cible que les gouvernements veulent dissoudre, et justement Ludivine Bantini reprend le terme et le déconstruit en disant qu'on ne peut pas parler de black bloc, mais de formation en black bloc. Déjà, ça permet de mettre une distance. Donc, des mots qui ont un contexte précis. Ensuite, il y a des mots qui traversent le temps et font croire à une permanence. Mmh. Vous avez cité le terme « vandale », qui est parfaitement étudié avec minutie par Michel Biard dans son article et dans cette revue. Et il montre que ce terme a 230 ans, en fait, et que depuis 230 ans, on l'utilise. Il y a, pendant les manifestations de ces dernières années, on voyait sur les murs « vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme ». Donc, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui. Et grâce à une micro-chronologie de la naissance de ce mot, il montre, Michel Biard, dans son article, en fait, le tour de passe-passe politique, l'expression est la sienne, de l'abbé Grégoire, oui, qui vient en fait innocenter les révolutionnaires, en quelque sorte. Et il propose un autre mot, iconoclasme, qui justement permettrait d'éviter de tomber dans le piège de certains mots. Le terme casseur fait partie un petit peu de ces mêmes mots. L'étymologie est rappelée dans toute une série d'articles de cette revue. Michel Biard rappelle que le terme casseur, c'était d'abord au XVIIIe siècle une insulte, qui a donné ensuite à un film « Je t'ai cassé » ou « Tu es cassé » là de que vous connaissez tous. François Jarige rappelle que ce sont les briseurs de machines au début du XXe siècle, les casseurs, le terme est employé à l'époque. Ludivine Bantini avait trouvé un autre usage dans les insurrections du début des années 1830, les casseurs de lanternes. Donc on voit qu'en fait ce terme casseur qui vient du langage courant, et Gérard Noiriel insiste aussi sur le fait que ce n'est pas un concept scientifique, mais c'est bien un mot qui est dans l'usage commun, très, très lourdement chargé, mais qui a en fait une inscription, qu'il est né à un moment, qu'il a été rattaché dans le langage social. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est ça qui a donné en fait la borne de départ de notre enquête. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces termes, casser, casseur, cassure, c'est cette polysémie, mais aussi ce retournement du stigmate qui est très classique dans l'histoire de la domination, des dominés, les chompi, ongles bleus, les pieds poudreux. Généralement, on retourne le stigmate. Et puis, vous parlez que ces termes sont souvent utilisés pour désigner une menace sociale. Mmh. Effectivement, les mots désignent une menace sociale, mais la menace ensuite devient très concrète. Ça veut dire que les mots ont un impact social et politique extrêmement fort. Du fait de cette désignation et de cette stigmatisation des casseurs, on peut arrêter des manifestants avant qu'ils aient commis le moindre délit. On peut les mettre en correctionnel. Là, je m'appuie sur quelqu'un qui n'est pas dans la revue, Vanessa Codaccioni, mais qui a fait un travail absolument remarquable sur toutes ces conséquences politiques et judiciaires. On pathologise aussi, je reprends un terme qu'elle utilise beaucoup, les actes manifestants. Et donc, cette menace sociale, ça a donné aussi la loi anti-casseur. Une loi anti-casseur qui a une origine dans les années 70 et qui, en fait, est régulièrement remise sur le tapis. Alors le titre cassé-casseur-cassure, finalement, le terme important, c'est peut-être celui de cassure, puisqu'on voit bien que derrière les mots, on a deux conceptions peut-être du monde social.
Vous permettez aussi de réfléchir sur l'objet de la casse. Qu'est-ce qu'on casse quand on casse ? François Jarige montre que les ouvriers et les artisans brisent des machines menaçant leur travail. Vous montrez que les détenus se dressent contre un traitement intolérable et dégradant. Les gilets jaunes s'attaquent aux signes du capitalisme triomphant. Peu d'atteinte aux biens relevant d'une délinquance d'appropriation, contrairement à ce que certains médias ont exhibé, et c'est très important.
Exactement. Alors moi, plutôt que dire qu'est-ce qu'on casse quand on casse, je dirais qu'est-ce qu'on dit quand on casse. Il y a des philosophes qui ont parlé de l'interpellation, d'autres qui ont dit qu'en faire, c'est dire. Et du coup, le premier réflexe scientifique qui est partagé par tous les gens de ce numéro, sociologues, historiens, c'est comprendre. La première chose qu'on va faire, c'est comprendre. Et comprendre, ce n'est pas excuser, comme l'ont dit un certain nombre d'hommes politiques ces dernières décennies, parce que ça remonte maintenant. Alors, on peut prendre des exemples intéressants. François Jarige dit très clairement que les ouvriers brisent les machines parce qu'elles menacent leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les machines leur cassent les bras. Elles cassent, il faut entendre ici, les compétences d'artisans et des gens de métier. Pendant ces années de fin 18e, 19e siècle, les innovations qui étaient faites, c'était pour améliorer les outils. Et puis ensuite, ce qui a triomphé, c'est la productivité. Et donc, c'est de multiplier des objets qui sont de moins en moins durables. Donc ici, on a véritablement un autre futur possible qui était envisagé dans ces gestes casseurs. Pour les détenus, et là on parlerait de mutins, on a de nombreux travaux sur les années 70 ayant une affinité particulière pour la présence des Algériens en France, qui ont fait l'objet de mes interrogations pendant une dizaine d'années et qui m'animent encore aujourd'hui. J'ai pu montrer en fait que les Algériens, pendant la guerre d'Algérie en France, il y avait des milliers de prisonniers dans les prisons en France, qui parfois étaient, comme à la prison Saint-Paul, étaient 600, avec un taux d'occupation extrêmement important. Et ben, ils ont lutté pour avoir un statut politique, ils ont lutté par la grève de la faim, mais auparavant, ils se sont révoltés, ils sont montés sur les toits, ils ont troué les toits, ils ont jeté des tuiles pour demander un peu d'estime, une dignité, tout simplement.
De la reconnaissance.
Exactement. Le mot est, je crois, extrêmement important, de la reconnaissance. Dans les années 1970, quand il y a de nouvelles révoltes, à Toul, à Nancy, etc., Foucault, qui invente le GIP, le groupe d'intervention sur les prisons, il rappelle cette origine. Il rappelle, à l'époque, il rappelle que les Algériens ont eu un très grand rôle dans ces révoltes et de ces prisons cassées. Et d'ailleurs, c'était un peu les mêmes termes de lutte, comme Pierre Vidal-Naquet, quand il crée une commission, l'idée, c'est de faire savoir. Qu'est-ce qui se passe dans telle prison, tel jour, à telle heure ? Et ça, c'est quelque chose qui est né peut-être pendant la guerre d'Algérie et qui s'est poursuivi dans les révoltes. Donc, ces mutins, ils réclament la dignité, ils luttent contre le racisme, contre la violence carcérale, contre la punition dans la punition. Et je terminerai en parlant des gilets jaunes, très rapidement, car ce n'est pas mon champ de recherche, mais Alain Berthaud a repris ce tag, en fait, de une pensée pour les familles des vitrines. Et justement, il met en rapport à l'échelle mondiale, car il construit depuis des années des bases de données sur les mouvements populaires. Et il met en rapport la violence d'État et la violence manifestante. Et il montre que c'est sans commune mesure. Alors, écoutons ce qui est dit.
Vous vous insurgez, en fait, contre la dénonciation d'irrationalité du geste casseur. Et vous tenez, dans cette revue, à en montrer la logique et la rationalité ?
Oui, alors il s'agit de montrer qu'il y a de la raison dans les gestes casseurs, qu'il y a de la raison dans l'émotion, que l'émotion est politique et que derrière ces gestes casseurs, il y a des cassures plus profondes, comme dans l'hôpital public, très bien montré par Frédéric Pierru, un hôpital cassé, comme dans l'université actuellement, et que donc on peut s'intéresser non pas à l'éclat événementiel qui intéresse sociologues, anthropologues, mais aussi aux cassures sociales beaucoup plus profondes.
Donc, ce que vous cherchez à montrer dans ce numéro, c'est une certaine rationalité du geste casseur qu'on peut saisir dans la dimension de l'imprévu, de la simultanéité, de la répétition, comme dans une histoire de ces gestes qui entrent tous en résonance.
Exactement. tous les termes que vous employez sont des termes qui relèvent du temps, de la temporalité. Donc effectivement, on peut plonger dans l'éclat événementiel. Hein. Des chercheurs le font. Ils vont observer sur le terrain l'importance des corps, des sens, de l'ouïe, de la vue. Alain Berthaud, dans cet article, parle de langage en situation, la simultanéité, les révoltes dans les prisons. En fait, c'était l'une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Hein. Et donc, il y avait un mouvement d'ensemble. Pareil pour le ludisme, pareil pour les gilets jaunes. La répétition qui permet de définir ce que les Anglais appellent des trends, hein, des tendances. Et depuis quelques années, on remarque une accélération des gestes casseurs, comme Jean-Nicolas avait montré avant la Révolution, une sorte d'accélération de ce qu'il appelait des émotions populaires. Et donc, effectivement, eh ben, on est au cœur de la réflexion quand on s'intéresse à la temporalité, au temps, et donc à notre temps.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Marc-André, je vous remercie.
C'est moi, je vous remercie beaucoup.
L'UR s'est dotée d'un nouveau site où l'on peut retrouver nos publications, les cahiers rationalistes et les synopsis de raisons présentes, de très nombreux textes, des podcasts et de nos colloques et de nos émissions. Ce site renouvelé se trouve à l'adresse suivante, union-rationaliste.org. Je renvoie à ce très beau numéro de Raison Présente, Cassé, Casseur, Cassure, qu'on peut à la fois acheter dans certaines librairies et commander par Cairn, ce que Marc-André a rendu possible. Je remercie Philippe Mercher et Peyré Legras qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.